Alors, pour développer les fondements du grand véhicule, Rinpoche s'appuie sur un texte qui s'appelle les 37 pratiques les 37 pratiques de Bodhisattva. L'auteur, c'est Thomé Zampo. Je ne sais plus à quelle époque a vécu Thomé Zampo, quelque chose comme 12e, 13e ou 14e siècle. Enfin, voilà, mais je ne sais plus. Les 37 pratiques de Bodhisattva. Alors, ça, c'est un des textes fondamentaux qu'on doit étudier, hein, comme étant pratiquant du grand véhicule. Quels sont les autres textes qu'on devrait étudier? Les anciens, là. Pascal, ça, vous devez
Le
savoir.
précieux ornement de la
Le
libération.
précieux ornement de la libération, le Dakpo-Tharyen, un texte de Gampopa, 11e siècle. Et j'ai l'habitude de dire que c'est la Bible des Kagyupas, hein, ce précieux ornement de la libération. C'est vraiment un texte qui explique comment on entre dans la voie, comment on la suit et qu'est-ce que jusqu'à l'activité que l'on déploie une fois qu'on a réalisé l'éveil. C'est donc tout le cheminement. C'est ce qu'on appelle un lamrim en tibétain, une voie progressive. Et ce texte est très important parce que je crois que c'est 14e siècle ou 15e siècle, quand Tsongkhapa a réformé la lignée Kadampa et qu'il a donné le nom de Gelugpa à la lignée aujourd'hui, le Dalai Lama fait partie de la lignée Gelugpa, mais avant cette réforme, c'était la lignée Kadampa, les purs, ça voulait dire, et que Tsongkhapa, écrit un texte, un lamrim aussi, une voie progressive, que les Gelugpa aujourd'hui étudient beaucoup, eh bien, ce texte, le lamrim, a été basé sur le Dakpo-Tharyen, le précieux ornement de la libération de Gampopa. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme autre texte? Un autre texte fondamental qu'on devrait tous étudier à fond. Le Bodhicharya Vatara. On traduit ça par la marche vers l'éveil. Bodhicharya Vatara, l'auteur, c'est Shantideva. Et Shantideva, dans ce texte-là, eh bien, développe comment pratiquer les six paramitas, les six vertus transcendantes. Alors, les six vertus transcendantes, ou les six paramitas, c'est ce qui forme, on pourrait dire, la colonne vertébrale du pratiquant du grand véhicule. Alors, quels sont ces six paramitas? Dans l'ordre, hein.
Le don,
Le don,
l'éthique,
l'éthique,
la patience,
oui, la patience,
la persévérance,
la persévérance,
la concentration.
la concentration, on va dire plutôt la non-distraction, hein, et puis
Conscience, connaissance.
La connaissance transcendante. Ça, c'est les six vertus que l'on doit mettre en pratique chaque jour en tant que pratiquant. Du grand véhicule, le don, l'éthique, la patience, la persévérance, la non-distraction et la connaissance. Voilà. Et Shantideva, dans ce texte, décrit, développe ces six paramitas. Bon, il y a un autre texte qui est vraiment important. Ça, vous le connaissez. Tel quel. Lojong, l'entraînement de l'esprit. Sous-entendu en 7 points. Ce texte est très important parce que il indique comment intégrer les situations adverses que l'on rencontre dans notre quotidien à notre pratique. Comment intégrer ce que l'on peut considérer comme les obstacles à notre pratique. Comment développer la bodhicitta, à la fois la bodhicitta relative et la bodhicitta ultime. C'est un petit texte, il est là, hein. Il y a de multiples commentaires traduits en français. Il y a un commentaire par Ringo Rinpoche. Mais vraiment, tous les maîtres commentent ce texte-là. Voilà. Et puis donc, un autre texte, c'est les 37 pratiques de Bodhisattva. Alors, dans ce texte, il y a deux termes qui vont revenir très souvent, c'est bodhicitta et bodhisattva. La bodhicitta, c'est la motivation du pratiquant. C'est comment Oui, c'est comment, c'est pas seulement la motivation, mais c'est comment mettre en pratique cette motivation. Bodhicitta, on le traduit par esprit d'éveil, l'esprit d'éveil. Et il y a deux aspects dans la bodhicitta. Il y a l'aspect relatif et l'aspect ultime. La bodhicitta relative, c'est l'amour, la compassion, tout ce que l'on peut développer comme qualité de bienveillance, d'attention à autrui dans notre quotidien. À chaque fois que l'on agit positivement pour soulager des êtres, pour apporter plus de paix ou de bonheur à quelqu'un, à qui que ce soit, même à un animal, on est en train de pratiquer la bodhicitta relative. Et il y a un autre aspect dans la bodhicitta, c'est la bodhicitta ultime, c'est ce qu'on appelle la sagesse, c'est le développement de la vacuité, de la compréhension de la vacuité, non seulement de la compréhension intellectuelle, mais aussi en avoir, mettre en pratique ou s'entraîner à voir les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont, ça veut dire les voir comme impermanentes et les voir comme dépourvues d'entité propre, d'existence propre. Ça, c'est la définition, on pourrait dire, de ce qu'on appelle la vacuité. Et il y a deux aspects, deux portes qui nous permettent de comprendre ça. C'est la réflexion sur l'impermanence de toute chose, et qu'il n'y a rien qui soit éternel. Et c'est l'interdépendance, la notion d'interdépendance, puisque tout existe à partir de multiples facteurs, de multiples conditions, et que rien n'existe de façon intrinsèque. Voilà. Ça, c'est les deux aspects de la bodhicitta. Maintenant, celui qui met en pratique la bodhicitta est ce qu'on appelle un bodhisattva. Et j'en parlais tout à l'heure au repas, il y a le Karmapa qui vient d'écrire un ouvrage qui vient de sortir sur... c'est quoi le titre de la compassion ?
Les routes de la compassion.
Quelque chose comme les routes de la compassion. C'est, et il met derrière, il y a une phrase du Karmapa derrière qui dit que... ça m'a fait très plaisir parce que c'est un peu mon dada. C'est... Tous les êtres ont la nature de Bouddha, nous sommes tous des bodhisattvas. Il dit nous sommes des petits bodhisattvas, nous sommes des apprentis bodhisattvas, mais nous avons tous cette nature de Bouddha dont il faut prendre soin. Et apparemment, je n'ai pas encore lu le livre, mais apparemment c'est comment prendre soin et comment développer cette nature de Bouddha. Et celui donc qui développe ces deux bodhicittas, eh bien, est un bodhisattva. Alors le mot bodhisattva, on le traduit par héros pour l'éveil. Et héros, c'est important. C'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un, un bodhisattva est quelqu'un qui est déterminé, et c'est quelqu'un qui a le sens de l'engagement. Il s'engage pour aider les êtres et pour mettre en pratique ces deux aspects de la bodhicitta. En d'autres termes, un bodhisattva, c'est pas de l'eau tiède, quoi. Il doit... avoir l'esprit du héros pour l'éveil, du samouraï, du chevalier, si vous voulez. Voilà, prenez l'image qui vous convient le mieux. Mais c'est cet esprit-là, un bodhisattva. Et il est vrai que quand on regarde des bodhisattvas qui ont vraiment œuvré pour les êtres, sans forcément avec une étiquette bouddhiste, mais vous regardez l'abbé Pierre, vous regardez Mère Teresa, dans l'hindouisme, il y a plein de grands bodhisattvas comme ça... Sœur Emmanuelle, etc., on sent chez tous ces êtres-là une très grande détermination et un grand sens de l'engagement. Et ils y vont. Et quand il y a des obstacles, ils font avec les obstacles, ils passent à côté, ils passent au-dessus, ils détruisent les obstacles, etc., mais ils ont un objectif et ils ne perdent pas de temps pour réaliser cet objectif. Cet objectif, c'est libérer les êtres de la souffrance. Le bodhisattva, c'est vraiment libérer les êtres de la souffrance. Donc dans un premier temps, comment soi-même, eh bien, nous allons faire en sorte de moins être cause de souffrance pour autrui, et comment œuvrer pour qu'il y ait moins de souffrance, voire jusqu'à la libération totale de la souffrance et pour tous les êtres, et pas seulement pour nos proches, pour les êtres que l'on aime, mais pour tous les êtres sans exception. Ça, c'est ce qui détermine le bodhisattva. Alors, on va voir comment Rinpoche décrit le bodhisattva. Un bodhisattva est quelqu'un, homme ou femme, qui dit du plus profond de son cœur, et je cite, « Je veux me libérer et surmonter tous les problèmes du monde. Je veux aider tous mes semblables à faire la même chose. J'ai très envie d'atteindre cet état ultime où règne paix et bonheur éternel, où toute souffrance a cessé, et je veux le faire pour moi-même et pour tous les êtres sensibles. » Donc c'est, comme dit Rinpoche, c'est « Don't try to do it, do it. » C'est, hein? Parce que si on passe son temps à essayer de faire, eh bien on ne fait pas grand-chose. On ne fait pas grand-chose. Et les grands bodhisattvas, quand on regarde tout ce qu'ils ont pu accomplir, eh bien effectivement, ils n'ont pas perdu de temps et surtout ils n'ont pas essayé de faire. Ils ont fait. Et ils ont remué des montagnes, hein, des fois, pour faire. Hein. Voilà. Donc, selon l'enseignement du Bouddha, celui qui s'engage ainsi de manière ferme et sincère est un bodhisattva. Nous devenons un bodhisattva à partir du moment où nous avons le cœur vaste et ouvert, ce qu'on appelle la bodhicitta, et l'esprit déterminé à apporter un bonheur durable à tous les êtres sensibles. Bon. Alors ça, c'est la définition du bodhisattva. Est-ce que nous sommes des bodhisattvas? Eh bien oui. À partir du moment où nous pratiquons dans le grand véhicule, nous sommes d'emblée des bodhisattvas. Alors comme dit le Karmapa, peut-être des petits bodhisattvas, des bodhisattvas pas très efficaces, mais nous devons avoir cet esprit du bodhisattva. Et pour affermir cet esprit du bodhisattva, dans le grand véhicule, il existe les vœux de bodhisattva que l'on peut prendre. Hein, et c'est dans le bouddhisme zen, par exemple, ces vœux qui sont les plus importants. Et ces vœux, eh bien, c'est prendre l'engagement de maintenir dans notre esprit cet esprit du bodhisattva. Un bodhisattva ne peut pas dire cette phrase qu'on entend souvent, « Oh, ça ne me concerne pas. » Un bodhisattva ne peut pas ne pas se sentir concerné par la souffrance d'autrui. Quoi. Alors, après cette motivation, il faut pouvoir mettre en pratique ça, cet esprit-là. Alors, on a vu, tout à l'heure, on a cité, il y a les six paramitas qui sont la colonne vertébrale du bodhisattva dans sa pratique. Mais la pratique, on peut la résumer aux deux aspects de la bodhicitta. Le bodhisattva va mettre en pratique la bodhicitta relative, voir dans son quotidien ce qu'il peut faire et comment le faire pour que l'autre passe en premier, que l'autre se sente mieux, que l'autre souffre moins, etc. Ça va demander chiné, ça va demander la pacification mentale, l'entraînement de l'esprit à la pacification mentale et à l'installation dans l'esprit de l'attention. Je suis attentif à ce que je fais, et ce que je fais, la façon de le faire, est-ce que ça laisse des conséquences positives ou des conséquences plus ou moins négatives pour autrui? Ça, c'est vraiment déjà la bodhicitta relative. Et on a besoin de cette attention et de cette concentration de l'esprit, de cette non-distraction, pour que nos actes eh bien, soient en conformité le plus possible avec cette motivation. Mais nous avons besoin aussi de développer la bodhicitta ultime. On a besoin de développer la connaissance transcendante ou la sagesse. Parce que sans la sagesse, d'une part, la bodhicitta relative, alors ça ressemble à de l'humanitaire spirituel, on va dire, mais ça se cantonne à ça. Et deuxièmement, les objectifs ne pourront pas être atteints parce qu'il n'y a pas le travail sur les facteurs perturbateurs. Or, ce sont les facteurs perturbateurs de l'esprit qui font obstacle au développement des qualités de l'esprit. Quand on est sous l'emprise de la colère, de l'avidité, de l'indifférence, de la jalousie, de l'orgueil, par exemple, eh bien, le temps où on est sous l'emprise de ces facteurs perturbateurs, il n'y a pas possibilité de développer l'amour, la compassion et la bienveillance. Ces qualités-là, elles sont toujours présentes en nous, mais les facteurs perturbateurs font obstacle au développement de ces qualités. Or, d'où viennent ces facteurs perturbateurs? Quelle est l'origine de ces facteurs perturbateurs? C'est la saisie. C'est la saisie, le fait de tout solidifier, ce qui passe dans l'esprit en termes de phénomènes intérieurs tels que les pensées, mais aussi en ce qui concerne les phénomènes extérieurs tels que les sensations ou les perceptions. Nous sommes toujours en train de saisir et de fonctionner dans un mode duel ou dualiste, et cette saisie, elle est responsable, c'est elle qui fait naître les facteurs perturbateurs dans notre esprit. Donc si vraiment nous voulons développer la bodhicitta relative, l'amour, la compassion, etc., nous sommes obligés de développer la bodhicitta ultime, c'est-à-dire de réduire jusqu'à déraciner cette saisie égotique qui est à l'origine de tous nos problèmes, mais de tous les problèmes qu'on fait subir aussi à autrui. Et tous les problèmes que les êtres font subir à d'autres êtres, en fait, c'est toujours dû à cette saisie. Et c'est vraiment le seul élément qui soit cause de notre souffrance et de la souffrance qui sillonne la planète. Et pour qu'elle réduise, eh bien c'est travailler sur la vacuité, entraîner notre esprit à la vacuité. Donc ça, c'est le développement de la bodhicitta ultime. Voilà. Le travail du bodhisattva, ben c'est ça. Et ça peut se résumer à cela. Ensuite, vous utilisez les méthodes que vous voulez, que ce soit les méthodes des sutras ou que ce soit les méthodes des tantras. Peu importe. Il faut que ces méthodes, eh bien, elles permettent le développement de ces deux bodhicitta. Vous pouvez aller chercher une tasse. Alors, Rinpoche continue en disant qu'il y a trois sortes de bodhisattva. La littérature bouddhiste définit trois types de bodhisattva. Celui semblable à un roi, celui semblable à un capitaine et celui semblable à un berger. Un bodhisattva semblable à un roi est comme un bon roi qui veut d'abord tout ce qu'il y a de plus luxueux pour lui-même, par exemple un grand palais, une cour nombreuse, une belle reine, et ainsi de suite. Mais une fois son bonheur réalisé, il veut aussi aider et assister ses sujets autant que possible. Ainsi, un bodhisattva semblable à un roi développe la motivation suivante. D'abord, je veux me libérer du samsara et atteindre l'éveil parfait. Dès que j'aurai réalisé la bouddhéité, j'aiderai tous les autres êtres sensibles à devenir aussi des bouddhas. Alors, ce bodhisattva qui est semblable à un roi, c'est un petit peu ce que l'on récite quand on récite la prise de refuge. Hein, puis-je réaliser l'état de Bouddha afin de libérer tous les êtres. Et c'est vrai que quelqu'un qui voit cette phrase, il peut se dire, eh bien, les bouddhistes, ils pensent d'abord à eux-mêmes avant de penser aux autres. Bon, pourquoi il y a quand même cette forme de bodhisattva? Parce que pour libérer réellement les êtres, il faut transmettre, il faut enseigner la bodhicitta ultime, et pas seulement la bodhicitta relative. Et pour pouvoir vraiment enseigner la bodhicitta ultime, il faut savoir de quoi on parle. Sinon, comme disent les textes, on est un aveugle qui conduit des aveugles. En général, ça va à la catastrophe. Hein. Donc, le bodhisattva comme le roi, il va réaliser l'éveil, et puis ensuite, il va aider les êtres à le réaliser. Mais toujours avec cet objectif, si je ne peux en fait montrer que ce que je suis, quoi. Et si je veux vraiment libérer les êtres, il faut que je sois libéré. Bon. Alors ensuite, il y a le bodhisattva qui est semblable à un capitaine. Et celui-ci dirait, je voudrais devenir un Bouddha et j'emmènerai tous les êtres sensibles avec moi afin que nous atteignions l'éveil ensemble. Donc c'est l'image du capitaine hein, qui traverse avec les passagers de son bateau, quoi. Et puis il y a le bodhisattva qui est semblable au berger. Alors il s'inspire de la pensée, je veux aider tous les êtres sensibles à atteindre l'éveil et à voir la vérité. C'est seulement quand cela sera accompli et que le samsara sera vide, que je deviendrai moi-même un Bouddha. Donc il fait passer tout le monde avant lui. Bon. La forme de Bodhisattva qu'on voit le plus aujourd'hui, c'est quand même celle-ci. Hein? Par exemple, les Bodhisattvas accomplis, les Rinpoche, les grands maîtres, eh bien, ils refusent de passer l'éveil, si vous voulez, de façon à ce qu'ils reprennent naissance pour aider les êtres. Étant très proches de l'éveil, ils peuvent choisir exactement où et comment reprendre naissance, parce que ils ne reprennent plus naissance par le vent du karma, on va dire, poussés par le vent du karma. Ils reprennent naissance par leur motivation d'aider les êtres. Donc ils choisissent la forme et le lieu où ils vont reprendre naissance, parce que là ils estiment qu'ils vont pouvoir aider ou continuer ce qu'ils avaient commencé dans la vie qu'ils viennent de laisser. Les Rinpoche, c'est cette activité-là. Le Dalai Lama, il va laisser jusqu'à une lettre, ou le Karmapa laisse une lettre, dans laquelle il explique où il va reprendre naissance, quand il va mourir, etc. Nous, on entend souvent, si j'ai choisi de reprendre naissance c'est parce que j'ai quelque chose à faire. On n'a pas réellement choisi quoi que ce soit, hein. Après, dans la vie précédente, quand on est mort, on s'est retrouvé dans le bardo, il y a les empreintes karmiques qui sont arrivées à maturité et qui ont fait que nous avons repris naissance sous cette forme, dans ce lieu et dans ces conditions-là. C'est plutôt comme ça. Évidemment, c'est en fonction de toutes nos tendances et en fonction de notre karma, mais on n'a rien décidé vraiment. Le jour où on pourra dire... je vais décider de la forme dans laquelle je vais reprendre naissance. Ce sera quand on décidera chaque nuit de ce que l'on va rêver. C'est exactement la même chose.
Ah oui.
Oui. On rêve en fonction du voile de nos tendances. Ce sont nos tendances qui s'expriment dans le rêve. On appelle ça le corps de rêve. Dans le bardo, ce sera aussi nos tendances qui s'exprimeront et qui feront que nous reprendrons naissance telle ou telle forme. Donc si on n'arrive pas à maîtriser vraiment les rêves, et pas seulement une fois de temps en temps, mais régulièrement, on ne pourra pas plus maîtriser ce qui se passera dans le bardo. Il faut arrêter de croire au miracle. Alors, la première strophe du texte commence, je vous la lis. Namo Lokeshvara. Au suprême maître spirituel et protecteur, Avalokiteshvara, qui voit tous les êtres comme dépourvus d'aller et venu, et cependant se manifeste uniquement pour le bien des êtres, je rends hommage et m'incline avec un profond respect par le corps, la parole et l'esprit. Alors, il commence par dire Namo Lokeshvara. Namo Lokeshvara, c'est du sanskrit. Et alors que c'est un tibétain qui a écrit ce texte. Tous les textes que les maîtres tibétains écrivent, il commence par rendre hommage en sanskrit. Pourquoi ? Parce que le Bouddha n'était pas tibétain. Le Bouddha était indien. Et donc tous les maîtres tibétains rendent hommage à l'Inde. À tel point que dans la langue tibétaine, l'Inde, Gyaga, ça veut dire le noble pays. Parce que c'est la terre du Bouddha. Voilà. Et cette façon de faire rappelle aussi que le Bouddha est venu de l'Inde, et aujourd'hui, si les Tibétains pratiquent le Dharma, c'est grâce à l'Inde. Voilà. Si un jour, il y a un Européen, un Occidental qui réalise l'éveil, il y en a peut-être, j'en sais rien, mais voilà, s'il y en a un qui de réaliser et puis qui écrit un bouquin, on peut supposer qu'il va rendre hommage aussi à l'Inde, mais il rendra hommage au Tibet, en ce qui nous concerne en tout cas, parce que le dharma tibétain tel qu'on le connaît aujourd'hui, il vient par des maîtres tibétains. Donc il y a toujours cet hommage rendu aux maîtres tibétains. Et au suprême maître spirituel et protecteur Avalokiteshvara. Avalokiteshvara, c'est Chenrezig en sanskrit. Donc il rend hommage au suprême maître spirituel et protecteur, en fait Chenrezig, c'est-à-dire celui qui incarne La compassion, l'amour, la compassion, c'est-à-dire les deux aspects de la bodhicitta, hein, l'amour, la compassion et la sagesse. Et ce maître spirituel et protecteur, Chenrezig, qui voit tous les phénomènes comme dépourvus d'aller et venu. Alors, qu'est-ce que veut dire dépourvu d'aller et venu? Rinpoche écrit, cette strophe décrit la compréhension obtenue par un bodhisattva hautement réalisé. Avec une telle réalisation, nous voyons notre vraie nature ainsi que celle de tout le reste. À la lumière de cette compréhension, plus rien ne va ni ne vient. D'habitude, nous croyons que nous allons et venons, que nous naissons et mourons, et que tout se produit continuellement. Avec une telle tournure d'esprit, quand quelque chose de bien survient, nous l'apprécions beaucoup, et quand quelque chose de mauvais arrive, nous ne l'aimons pas et nous commençons à en avoir peur. Nous voyons tout comme positif ou négatif. Et tant que nous continuons à voir les choses de cette manière, nous sommes menés par l'aversion et l'attachement. L'aversion en particulier est la source principale de toute notre peur. Une fois que nous avons peur, nous essayons d'échapper à ce qui est effrayant et nous saisissons tout ce qui pourrait empêcher l'objet de notre aversion de trop s'approcher. Nous nous attachons à la protection apparente que nous imaginons, mais ce n'est pas une solution puisque notre aversion est toujours là. Cette manière dualiste de réagir est considérée comme la source fondamentale de toute notre souffrance. Et la dualité, cette tendance qu'on appelle la dualité, hein, à tout voir sous mode de duel, bon, mauvais, pur, impur, bien, mal, j'aime, je n'aime pas, etc., eh bien ça vient de toujours la saisie, de l'ignorance fondamentale. Alors quand il est dit que tous les phénomènes sont dépourvus d'aller et venu, cela signifie qu'un bodhisattva éveillé voit la vérité. Il voit les choses telles qu'elles sont. Ceci signifie voir directement, sans ajouter aucun concept ni aucune philosophie. Dans cette vision claire, il n'y a pas le plus léger doute à propos de quoi que ce soit. Il n'est donc pas nécessaire de saisir ni de s'enfuir. Et c'est ce qu'on veut dire par « aller et venu ». Un bodhisattva réalisé n'a pas de vue dualiste. Voilà. C'est important, Rinpoche dit qu'un bodhisattva comme ça qui voit, eh bien, n'a plus de doute. Alors, c'est pour ne plus avoir de doute, eh bien, il faut aller au-delà d'une compréhension intellectuelle. Il faut vraiment faire l'expérience des choses telles qu'elles sont. Vous savez, ça ne va pas se produire comme ça un jour, par miracle, un matin, on va se réveiller et on va voir vraiment la vacuité de soi-même de tous les phénomènes, et des situations, etc. Si on ne s'entraîne pas à cela, on ne le verra jamais, quoi. Nous sommes dans le samsara, comme disent les textes, depuis des temps sans commencement. Eh bien, c'est-à-dire qu'on n'a rien vu depuis des temps sans commencement, puisqu'on est toujours dans le samsara. Et pourtant, on a dû avoir déjà des contacts avec des méthodes pour voir, c'est-à-dire pour comprendre, pour réaliser. Mais qu'est-ce qu'on a fait de ces méthodes? Peut-être qu'on a déjà pratiqué le dharma dans des vies passées. Mais pas suffisamment, peut-être pas avec beaucoup de diligence, mais en tout cas, nous sommes toujours dans le samsara, quoi. Bon, ben voilà, il faut réfléchir à ça. Ce genre de réflexion, ça ne doit pas nous culpabiliser, parce que se dire, ben, peut-être que j'ai été très, très paresseux dans les vies passées, ça ne sert à rien de se culpabiliser par rapport à ça. Mais c'est juste pour nous ramener, eh bien, comment pratiquons le dharma? Comment est-ce qu'on pratique le dharma aujourd'hui? Ça, vous savez, c'est les quatre idées fondamentales qu'on nous rabâche sans arrêt. Hein. Nous avons la précieuse existence humaine. Ça veut dire toutes les conditions pour pratiquer le dharma. Nous méditons sur l'impermanence, et ces conditions-là, peut-être que dans 8 jours, eh bien, nous ne les aurons plus. La mort peut arriver, hein. On n'y croit pas, mais voilà, je ne le souhaite à personne, mais on peut se planter en voiture, peut-être tout à l'heure. Hein. Ça, c'est quelque chose de possible quand même. Il faut quand même l'admettre, quoi. C'est possible. La réflexion sur la loi de causalité, ça, c'est plus compliqué. Parce que on ne voit pas forcément le lien entre ce qui arrive et la cause qui produit ce qui était en train de se mettre en place. Quand on voit le lien, ça c'est très pratique, mais c'est très facile. Mais le lien n'est pas toujours visible, et pourtant rien ne se produit sans une cause. Et puis la quatrième réflexion, eh bien, c'est le samsara. Comment est-ce qu'on se situe par rapport au samsara? Est-ce qu'on en a marre du samsara ou est-ce qu'on l'aime bien quand même, quoi? Alors, la main nous avait dit ça. La main nous avait dit, en ces termes, hein, il parlait français, il nous avait dit, oh, on aime tous bien, on a tous marre du samsara, mais on l'aime bien quand même. Et c'est vrai, parce qu'on est attaché à plein de choses. Et ça, c'est juste faire le bilan de ce qui se passe, où on en est, et puis après, ben, on peut rectifier, si vraiment on a envie de rectifier. Mais le bodhisattva est obligé de faire ce bilan, et régulièrement. Mais pas une fois comme ça et dans sa vie, mais régulièrement il doit faire le bilan, c'est comment il se positionne par rapport au dharma, c'est-à-dire par rapport à la méthode et bien qu'il va lui permettre de réaliser et de développer dans un premier temps, puis de réaliser et bien ces deux aspects de la bodhicitta. Personne, y compris le bodhisattva le plus accompli, personne ne peut faire ce travail à notre place, personne ne peut transformer notre esprit. Quand le Dalai Lama, devant 10 000 personnes en Dordogne, dit « Dans le samsara, tous les êtres souffrent », et puis qu'il s'arrête, comme s'il avait un grand blanc, quoi. Et comme il a son micro-cravate, eh bien tout le monde entend qu'il pleure. Et c'est pas de la sensiblerie, mais un bodhisattva est quelqu'un qui a, par la compréhension de la vacuité, c'est quelqu'un qui a une énorme compassion. Mais ce n'est plus une compassion, on va dire, fragile ou une compassion sentimentale. C'est une compassion qui est puissante, qui est enracinée, qui est vraiment tripale, j'allais dire. Pourquoi ? Parce que cette compassion, elle vient de la compréhension de la souffrance. Elle vient de la compréhension de la cause de la souffrance. Et cette cause, personne ne peut la déraciner dans l'esprit de quelqu'un. Si cette personne-là ne la déracine pas elle-même, personne, même le Bouddha, n'a pas pu modifier d'un iota l'esprit de ses disciples. Il n'a pu que montrer le chemin, il n'a pu qu'enseigner comment faire, mais personne ne peut faire ce travail intérieur. Et un bodhisattva accompli qui a fait ce travail-là, il a à ce moment-là énormément de compassion, mais une compassion vraiment puissante et profonde, parce qu'il voit la cause, il voit la saisie qui se manifeste dans l'esprit des gens, et ce qu'entraîne cette saisie. Alors que tous les êtres cherche à être heureux. Mais il voit que tout ce qu'ils font pour être heureux, c'est fait avec saisie. Donc, à la clé, il y aura de la souffrance. Donc, c'est comme quelqu'un qui est malade, qui veut se soigner, mais qui prend un médicament qui va le rendre encore plus malade, quoi. Voilà. Par ignorance, en fait. Donc, c'est... Le bodhisattva, pour avoir une véritable compassion, eh bien, doit vraiment avoir cette réalisation de la bodhicitta ultime. Donc, dans cette observation simple et pure, la compassion spontanée s'élève. Quand nous ne ressentons plus ce besoin de nous cramponner à nous-mêmes et de nous focaliser sur nos problèmes sans arrêt, nous pouvons regarder autour de nous et tout voir clairement. Alors, une petite dit, hein, quand nous ne ressentons plus ce besoin de nous cramponner à nous-mêmes et de nous focaliser sur nos problèmes sans arrêt. Ça, c'est à méditer, hein, parce qu'alors, il y en a qui ne parlent que de leurs problèmes. Il y a des personnes qui ne parlent que de ça. Il y a une personne, on peut même plus personne ne lui dit « Alors, comment vas-tu ?» Parce que pendant un quart d'heure, c'est « Oh, ben, ça va pas. » Et il y a un tapis pendant un quart d'heure de tout ce qui ne va pas. Moi, même si je ne lui dis pas « Comment allez-vous ?» La personne me répond, j'ai pas besoin de lui poser la question, parce que on se dit bonjour, elle dit « Ah oh ben heureusement que je vous vois, parce que, il y a tout qui sort. » Et vous avez des personnes comme ça qui ne parlent que de leurs problèmes, quoi. Vraiment. Et à ce sujet, il y a une histoire. Alors, j'aime bien les histoires de Rinpoche, mais je vais vous la lire quand même. D'habitude, nous sommes tellement préoccupés par nos problèmes que nous ne pouvons rien voir d'autre. Il y a une histoire à propos d'une princesse qui avait une très petite irritation à l'œil, qu'elle ressentait de manière disproportionnée. Comme c'était la fille du roi, elle était assez gâtée et elle pleurait tout le temps. Quand les docteurs voulaient lui faire prendre un médicament, elle refusait invariablement et elle continuait à se frotter l'œil. Ainsi, le problème empira jusqu'à ce que le roi promette une grande récompense à qui pourrait soigner sa fille. Quelque temps plus tard, un homme se présenta qui prétendait être un docteur renommé, mais qui en fait n'était pas docteur du tout. Il déclara qu'il pouvait assurément soigner la princesse, et il fut admis dans sa chambre. Après l'avoir examiné, il s'exclama « Oh, je suis tellement désolé !»« Que se passe-t-il ? » demanda la princesse. Le docteur dit « Votre œil n'a rien de bien grave, mais il y a quelque chose d'autrement plus sérieux. » La princesse s'alarma. « Mais qu'y a-t-il de si sérieux ?» Il hésita et dit « Ce n'est vraiment pas bon, je ne devrais pas vous en parler. » Elle eut beau insister, il refusa de lui révéler quoi que ce soit, lui disant qu'il ne parlerait pas sans la permission du roi. Quand le roi arriva, le docteur était toujours réticent à dévoiler ce qu'il avait trouvé. Finalement, le roi ordonna « Dites-nous ce qui ne va pas, quoi que ce soit, vous devez nous le dire. » Le docteur finit par dire « Eh bien, l'œil ira mieux dans quelques jours, ce n'est pas grand-chose. Le gros problème, c'est qu'il va pousser une queue à la princesse, qui sera longue d'au moins 16 mètres. Elle pourrait commencer à pousser très bientôt. Si la princesse peut la détecter dès qu'elle apparaît, je pourrais faire quelque chose, mais une fois sortie, personne ne pourra l'empêcher de pousser. » En entendant ces mots, tout le monde fut très inquiet. Et que fit la princesse ? Elle resta au lit, jour et nuit, dirigeant toute son attention sur la queue qui pouvait sortir. Après quelques jours, son œil fut guéri. Mais voilà comment on est, hein, de façon générale, quoi. Hein. Voilà. Et parler sans arrêt toujours de ces problèmes, c'est clair, on peut en avoir, on peut en parler. Mais les autres en ont aussi, hein. On n'est pas seul à avoir des problèmes. Mais ça veut dire aussi que ça tourne tout autour du moi, quoi. C'est moi, 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 je suis comme ci, moi j'ai ça, moi je vis ci, je vis ça, etc. quoi. Nous pouvons percevoir, dit Rinpoche, la vie des autres et comprendre comment ils font face à leurs problèmes et pourquoi ils en font l'expérience. Bien que nous voyons que les autres éprouvent de grandes souffrances, nous savons que celles-ci sont presque toujours inutiles. Ils ne sont pas condamnés à souffrir, parce que leur souffrance vient simplement d'une mauvaise manière de voir et de réagir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au sujet d'une véritable compassion à ce moment-là qui s'élève à partir de cette compréhension. S'ils pouvaient voir les choses telles qu'elles sont, ils ne souffriraient plus. Voilà comment un être éveillé comprend les choses. Quoi qu'il arrive, les bodhisattvas authentiques ne sont pas perturbés, bien qu'ils voient ce qu'il se passe. Ce qu'ils voient provoque spontanément chez eux la ferme volonté d'aider tout être sensible qui n'a pas encore atteint cette vision. Cette aspiration aura pour résultat des actions spontanées pour aider tout ce qui souffre. Un bodhisattva qui voit la vérité ne connaît ni aversion ni saisie, et de ce fait ni peur ni attachement. Ainsi, les problèmes des autres sont vus comme des illusions basées sur l'ignorance. En même temps, il voit l'étendue de la souffrance de tous les êtres. Sachant combien il est aisé de sortir du cercle vicieux de l'ignorance et de la souffrance qui s'ensuit, un bodhisattva a pour unique souhait de soulager tous les êtres de toutes leurs peines. Alors, vous avez des bodhisattvas qui s'enferment et qui vivent en ermite. Hein, Lama Tenpa Gyatso qui est venu une fois ici, il vit en ermite depuis 1988 et on le voit tous les 7 ans à peu près. Alors, il y a des gens qui demandent, qui disent, mais ils sont vraiment des bodhisattvas, mais à quoi ils servent en vivant reclus et enfermés toute leur vie? Qu'est-ce que vous répondriez à ça? En quoi leur attitude de s'enfermer et de vivre en ermite est une attitude de bodhisattva? C'est bien de poser une question, ça permet de boire.
J'ai fait déjà quelques expériences jusqu'au bout, le chemin et la manière de voir les choses pour pouvoir. Il faut qu'il ait fait l'expérience pour pouvoir redonner déjà au départ. Mais c'est. Son intention au départ, c'est de. Pour pouvoir guider, faire traverser la rue à quelqu'un, il faut quand même savoir où on le fait passer et où, à quel moment on le fait passer.
Mmh. Oui, c'est ça. C'est en relation avec ce qu'on vient de dire, de ce que dit Rinpoche. C'est quelqu'un qui veut absolument réaliser l'éveil pour ensuite pouvoir vraiment aider. La motivation d'aider les êtres, c'est très bien, mais. Est-ce que nous aurons toujours les conditions pour aider les êtres? Est-ce que nous aurons les conditions dans la prochaine vie pour aider vraiment les êtres? Mais pas sûr. On ne sait pas ce qu'il y a au niveau karmique. Comme empreinte karmique dans le sac de la conscience qu'on se traîne. On ne sait pas ce qu'il y a. Alors la motivation de se dire, eh bien dans la prochaine vie, puis-je aider les êtres? Oui, c'est très bien d'avoir cette motivation. C'est ce qu'on appelle la bodhicitta en aspiration. Mais est-ce que nous sommes sûrs que nous aurons les conditions pour aider les êtres? Donc les ermites, pourquoi ils entrent en retraite à vie? Mais c'est pour être sûr que dans la prochaine vie, eh bien, ils auront toutes les conditions pour aider vraiment les êtres. C'est-à-dire qu'ils veulent réaliser l'état de Bouddha. Et quand ils auront réalisé l'état de Bouddha, alors ils sortiront de leur grotte et puis ils iront enseigner. C'est comme ça que le Karmapa a exigé que l'ancien Kalo Rinpoche, au bout de 12 ans de retraite en ermite dans les montagnes du Tibet, sorte de sa grotte pour aller enseigner. Que Lama Gendun, par exemple, à Dakpo, après 30 ans de retraite dans une grotte, on lui a demandé de sortir et d'aller enseigner, etc. Mais quand ils meurent, ces gens-là, ils reprennent naissance en tant que Tulku. Ce sont des Rinpoche, mais dès la naissance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de, il y a plus de karma, il n'y a plus de tendance négative dans leur esprit. Et donc, vie après vie, jusqu'à la fin du samsara, eh bien, ils reprendront naissance en étant sûrs qu'ils auront toutes les conditions pour aider les êtres. Parce qu'il n'y a plus de karma, il n'y a plus de tendance karmique dans leur esprit.
Et pourquoi ils sont encore dans le samsara alors? Ils ne devraient plus y être.
Mais alors, jusqu'à les ermites qui vont s'enfermer, ils sont dans le samsara parce que, en fait, ils sont des êtres ordinaires comme vous et moi. Mais ils veulent pratiquer et réaliser l'éveil dans cette vie. Alors ils vont s'enfermer. Bien. Les Rinpoche qui continuent d'être dans le samsara, mais c'est le bodhisattva en tant que berger. C'est-à-dire qu'ils réalisent l'éveil, mais ils reprennent volontairement naissance dans le samsara de façon à aider sous plusieurs formes possibles. Il y a quatre activités hein, de bodhisattva. Il y en a qui enseignent, il y en a qui construisent, il y en a qui sont dans l'anonymat, il y en a qui prennent la maladie des êtres et qui sont malades tout le temps. Voilà. Mais donc, eux, c'est un choix délibéré de revenir dans le samsara pour aider les êtres. Et de revivre, en fait, eh bien, tout l'inconfort, on va dire, du samsara, bien que leur esprit ne le vit pas comme nous, comme notre esprit le vit. Ça, c'est sûr. Mais enfin, bon, quand ils sont malades, ils sont malades. Quand la mort arrive, comme chez un être ordinaire. Et là, on voit qu'il y a vraiment une véritable compassion. Ils pourraient en fait avoir la paix, ces gens-là. Ils pourraient être vraiment libérés du samsara. Mais dans le grand véhicule, bah, c'est ça. Le bodhisattva, il accepte d'endurer à nouveau les souffrances du samsara pour que, au maximum d'êtres, un maximum d'êtres, eh bien, se libère.
Mais ils auront une fois, un jour, l'immortalité, ces gens-là.
Alors, dans le grand véhicule, l'éveil pour eux, mais comme pour nous, hein, parce qu'on est tous bodhisattvas, eh bien, ce sera quand le samsara sera vidé. Ouais. Rinpoche, il en parle hein, de ça. Je ne sais plus où il parle de ça, c'est peut-être un peu plus loin. Mais en tout cas, voilà pourquoi Rinpoche dit que la quête de la vérité du Bodhisattva est une sorte de recherche basée sur l'expérience personnelle. Hein? Ce n'est pas juste une idée. Avoir l'idée de la bodhicitta, c'est ce qu'on appelle la bodhicitta en aspiration. C'est faire le souhait. Mais il faut absolument que cette bodhicitta, elle soit mise en application. C'est-à-dire que ce soit du concret, quoi. À la fois dans la bodhicitta relative, c'est faire quelque chose de concret pour aider les êtres. Dès qu'on peut faire quelque chose de concret pour aider les êtres, un bodhisattva, il ne réfléchit pas, il le fait. S'il a la possibilité de le faire, il le fait. Il ne peut pas ne pas le faire, en fait. Il le fait. Mais il doit aussi avoir une expérience, c'est-à-dire mettre en pratique, de façon concrète, la bodhicitta ultime, la vacuité, la sagesse. Et il faut les deux, toujours ces deux aspects. C'est pourquoi on dit que ces deux bodhicitta, eh bien, ce sont comme les deux ailes d'un oiseau. Un oiseau ne peut pas voler avec une seule aile. Donc, par-dessus tout, notre quête est dirigée vers notre esprit. Car lorsque nous éprouvons des problèmes et de la souffrance, ils font partie de notre propre expérience. Nous recherchons les réalités de la vie, la vérité dans notre propre expérience. Nous nous demandons quels sont mes problèmes et comment arrivent-ils? Comment naît ma souffrance? D'où ma peur vient-elle? Que puis-je faire avec mes problèmes? Qu'est-ce que j'ignore à leur propos? Jusqu'à quel point est-ce moi qui crée mes problèmes? Quelle est la part due à mon conditionnement? Quelle part y joue ma propre confusion? Jusqu'à quel point suis-je ignorant et vois-je la réalité de manière déformée? Qu'est-ce qui en moi ressent tout cet attachement et cette aversion, cette peur et cette excitation? La manière de trouver la vérité est de voir la réalité clairement et précisément. Ainsi, un bodhisattva ira au fond de ses questions et cherchera à acquérir une compréhension correcte. Cette compréhension est alors utilisée pour trouver des solutions, non seulement pour soi-même, mais pour tous les êtres sensibles. Dans ce contexte, la compassion pour les autres et le fait de travailler à leur bien-être n'est pas simplement le but à atteindre, c'est aussi la voie et la méthode pour voir la réalité. La première étape vers ce but est d'essayer de s'ouvrir. C'est clair, hein, Rinpoche, il est... Là, c'est pas, comme je dis souvent, de l'eau tiède. Hein. Quand il énumère toutes les questions qu'un bodhisattva se pose sur sur le fonctionnement de son esprit, ben voilà, nous devons passer par échiné et lacton, quoi. Alors après, oui, il parle de cette histoire que je vous ai racontée. Donc cette histoire, ceci montre comment nous réagissons d'habitude. Nous nous focalisons sur notre petit problème. Et il devient le centre autour duquel tout le reste tourne. Jusqu'ici, nous avons reproduit ce comportement vie après vie. Nous pensons d'abord mes souhaits, mes intérêts, ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Tant que nous fonctionnerons comme cela, nous ne changerons pas. Menés par les impulsions du désir et de l'aversion, nous voyagerons sur les routes du samsara sans trouver d'issue. Tant que l'attachement et l'aversion constitueront la source de notre existence, et tant qu'ils nous inciteront à agir, nous ne trouverons pas le repos. Il n'y a pas moyen de trouver la paix tant que nous entretiendrons l'impulsion de notre égoïsme. Mon et je sont tout ce qui compte. Je me sens le centre du monde, tout m'appartient. Même les problèmes ne sont pas simplement des problèmes, ils sont mes problèmes et cela les aggrave. Tout ce dont nous faisons l'expérience est ressenti comme mon froid, ma fièvre, mon ami, mon ennemi, mon tout, mon est le cœur de notre attention. Selon le bouddhisme, nous avons fait cela pendant un nombre incalculable de vies. Tant que nous continuerons dans cette voie, nous ne serons jamais libérés de la souffrance. L'unique alternative, le chemin vers la liberté, est de regarder vers l'extérieur, de nous ouvrir et de penser, pas seulement moi, mais les autres aussi. Voilà. Et ça, c'est vraiment la phrase qui pourrait résumer ce qu'on appelle la bodhicitta, c'est-à-dire cette motivation qui est le principe de vie du bodhisattva. Ça va ? Pas trop cassé ? Vous savez, Rinpoche, il a un aspect comme ça, une apparence très, très relaxe, toujours à raconter des histoires pendant les enseignements. On a toujours l'impression que bon, ça va, c'est juste tranquille. Mais quand on touche à la bodhicitta, je trouve que son activité de bodhisattva, on voit qu'il y a une grande, grande détermination chez lui, quoi. C'est pas... Il est comme tous les bodhisattvas, même s'il aime bien rigoler, s'il aime bien manger, même s'il est relax comme ça, en apparence. Son esprit, c'est pas un dilettante, quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment déterminé, et ça se voit dans son activité, quoi. Et je trouve que ça se retrouve là dans ce qu'il dit, dans cette façon de définir ce qu'est un bodhisattva, quoi. On repart, ce soir, on repart et on se dit, je suis peut-être bodhisattva, mais alors vraiment en herbe, hein. Est-ce que vous avez des questions, des observations ? Alors je précise tout de suite autre chose. Si ce genre d'enseignement ça a tendance à vous décourager, attention, le découragement brise les vœux de bodhisattva. C'est exigeant, hein? C'est-à-dire qu'on peut se mettre en vacances, on peut se prendre du repos, on peut voilà, se dire, ben là je ne peux pas faire plus, j'ai besoin de me reposer, etc. Ça, c'est tout à fait admis. Mais c'est pour se reposer, pour être mieux ensuite, pour continuer le travail.
C'est-à-dire qu'on avance 3 pas et on recule de 5.
Comment ?
J'ai l'impression qu'on peut avancer de 3 pas et après reculer de 5 pas. Et on avance vraiment progressivement, mais c'est très long.
Non, pour avancer, il faut avancer. Il faut avancer 3 pas et de reculer de 2 seulement. Mais si on recule de 5, on n'avance pas. Hein.
Alors, on n'avance pas. Mais on peut après avancer de 10.
Ah, dans ce cas-là, ça va alors. Mais je ne crois pas vraiment qu'on recule de 5. Il y a quelques fois, oui, on recule, mais si on maintient la pratique, on ne recule jamais trop très loin. Il y a de temps en temps, oui, on peut reculer, on peut voilà, se dire, voilà, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Voilà. Mais tant qu'il y a cette motivation, cette énergie dans le cœur, si vous voulez, eh bien... On recule un peu, mais on continue d'avancer quand même, quoi. Mais vous savez, ce découragement-là, cette notion de ne pas se décourager, ça me fait penser toujours au Père Gilbert. Vous voyez, vous vous souvenez ce prêtre motard, avec des cheveux longs, frisés, toujours en jean et blouson de cuir. Le Père Gilbert, il s'appelle. Il est encore en vie. Hein. Et il travaille avec des jeunes délinquants dans les banlieues, etc. Il travaille 6 jours sur 7. Et le dimanche soir, il s'exile dans un monastère. Tous les dimanches soirs, il va s'enfermer dans un monastère pendant 24 heures. Et ça c'est vraiment l'attitude de Bodhisattva. Il connaît parfaitement ses limites. Et il disait un jour que si quelqu'un lui téléphone le dimanche soir en lui disant « Je suis sur le point de me suicider », il lui répond « Eh ben attendez mardi ». Parce que le lundi, ben, il ne peut pas être là. Il faut qu'il ait 24 heures de silence et de vie contemplative pendant 24 heures pour recharger en fait les batteries qui vont lui permettre eh bien, de tenir les 6 jours suivants. Et vous savez, c'est lui qui a une émission à la chaîne chrétienne KTO, la chaîne de télé KTO. Il y a un jour... Il y avait une dame très, très bien pensante qui était là et qui lui dit « Mais enfin, Père Gilbert, vous avez vu votre tenue pour un prêtre ? Un blouson, une chaîne, etc. Pourquoi en tant que prêtre vous vous habillez comme ça ?» Et alors ce qu'il a fait, mais en pleine télé, hein, il a pris ses deux dentiers qu'il a posés devant la main de femme. Il a dit la première fois que je suis allé chez les délinquants, oui, j'étais habillé tout à fait autrement. Ben voilà comment je suis ressorti, je n'avais plus de dents. Donc si vous voulez que le message passe aussi dans cette population-là, eh bien il faut que je sois habillé comme eux, que je parle comme eux, que j'agisse un peu comme eux, enfin, etc. Quoi, qu'ils me sentent proche d'eux. Quoi. Alors voilà, ça c'était une anecdote, hein, mais...
Vous avez parlé des multiples réincarnations passées et celles qui nous attendent. Lorsqu'on passe le cap de la mort, bien sûr le corps physique repart en poussière, mais quelle est l'entité qui subsiste au fil des différentes réincarnations ?
Alors, il n'y a pas d'entité, mais il y a l'esprit.
Alors, oui, mais ce qui m'a un petit peu perturbé, c'est que par rapport à l'esprit, l'esprit devient ce que notre travail va lui permettre de devenir.
En fait, l'esprit, il est façonné par les tendances. Et les tendances, elles sont maintenues par notre façon d'agir, mais elles sont corrigées ou purifiées aussi par notre façon d'agir. Mais l'esprit, il ne s'en va pas vierge quand la mort arrive. Il continue, il quitte ce corps, mais il quitte le corps avec toutes les empreintes, avec toutes les tendances eh bien, qui se sont greffées. C'est ce qu'on appelle l'alaya vijnana, on appelle ça la conscience réservoir. C'est-à-dire qu'il y a, on pourrait dire de façon imagée, que les tendances, eh bien, elles sont engrangées dans cette conscience. Et quand cette conscience quitte le corps, l'esprit quitte le corps, eh bien, il y a les tendances qui quittent le corps avec elle, quoi. Et ce qui va donner la forme, puisque l'esprit reprend forme, eh bien, la forme va être en fonction de ces tendances. Donc, si les tendances sont extrêmement positives, bon, bah, tout va bien. On va reprendre forme avec des conditions extrêmement favorables. Mais si les tendances sont très négatives, parce que ben, on a mené une vie pas très positive, pas très éthique, etc., eh bien, ces tendances, elles vont être à l'origine de formes beaucoup moins favorables que, par exemple, la vie humaine. Et c'est pour ça qu'il y a une description de plusieurs états dans lesquels on peut reprendre naissance. C'est toujours en fonction de notre karma, quoi, de ses empreintes. Le Bouddha disait, si vous voulez savoir ce que vous étiez dans les vies passées, mais voyez ce que vous êtes aujourd'hui. c'est un résultat. Tout ce que nous vivons dans cette vie-là, eh bien, c'est un résultat. Mais si vous voulez savoir ce que vous serez dans les vies prochaines, voyez ce que vous faites dans cette vie-là. Le présent est le fruit du passé, mais le présent construit le futur.
Parce qu'il y avait, pour moi, il y avait trois... trois termes pour ne pas mettre autre chose en face. L'esprit, le moi profond et l'âme.
Ouais.
Donc tout ça sont des choses, des synonymes.
Alors, le moi profond, ça je... Comment vous le définissez? Parce que ça, c'est un terme qu'on n'utilise jamais.
Mon entité spirituelle, mon être, je ne sais pas comment le définir, mais la définition que vous avez donnée de l'esprit, pour moi, ça pouvait être le moi profond ou l'âme.
Ouais.
Je ne sais pas comment dissocier les trois. Pour moi, les trois étaient un peu...
Ben, c'est pour ça que nous, on n'utilise qu'un terme, parce que l'âme, le Bouddha refuse de... Comment dire? Il ne distingue pas l'esprit d'un côté et l'âme de l'autre. Parce que l'âme, dans l'hindouisme, l'atman, ce qui correspond à l'âme, est vue comme une entité unique, autonome et permanente. Elle est définie comme ça. Unique, autonome et permanente. Donc unique, c'est-à-dire propre à chaque être. C'est un peu la notion de l'âme dans le christianisme, je crois.
Oui.
Voilà. Le Bouddha réfute l'existence d'une telle entité. Et le bouddhisme est devenu une branche indépendante à partir de cette réfutation de l'âme. Sinon, on serait une école hindouiste. Mais le Bouddha démontre qu'une telle entité n'existe pas. Par contre, que l'esprit existe, mais l'esprit n'est pas l'équivalent... L'esprit n'existe pas selon le modèle d'une telle entité. L'esprit, c'est un flux, c'est un flot de conscience. Donc, c'est une succession d'instants de conscience. Mais ce n'est pas quelque chose. C'est une succession d'instants. Donc, c'est pour ça que la notion d'entité est complètement réfutée dans le bouddhisme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose. Il y a quelque chose, l'esprit. Mais cet esprit n'est pas comme on pourrait définir l'âme, n'est pas une entité. C'est une succession d'instants. Alors ça, c'est pour ça que c'est si difficile, quand on parle de vacuité, c'est si difficile de réaliser cette vacuité, parce qu'on ne se perçoit pas comme ça. On se perçoit comme étant un moi, eh bien, qui a... existé il y a quelques années, qui existe maintenant, qui va exister encore dans quelques années, et puis une vie prochaine, etc. Le Bouddha démontre que ça, c'est une erreur de croire ça. Que la réalité n'est pas exactement comme ça. Alors, on existe, mais ce que je suis là maintenant, c'est différent de ce que j'étais ce matin. Et pourtant, mais comme c'est une succession d'instants, ça donne cette impression de quelque chose qui continue. Mais c'est qu'une succession d'instants. Alors c'est pour ça aussi que le Dharma va donner beaucoup d'importance à l'instant présent. Parce qu'il n'y a que ça de réel. Et alors, le Bouddha disait que c'était cette croyance en cette entité, qu'on appelle le moi, qu'on appelle après comme on veut, eh bien, qui est la cause de tous les problèmes. Et quand le Bouddha a réalisé cela, il s'est dit, mais jamais je ne pourrais enseigner ça, parce que ça va à l'encontre de la croyance extrêmement profonde que tous les êtres ont par rapport à ce qu'ils sont. Et puis il s'est dit, mais si moi je l'ai compris, d'autres peuvent le comprendre. Mais il est resté 8 jours après son éveil sans pouvoir enseigner. Et au bout de 8 jours, il s'est dit, mais si je l'ai compris, d'autres peuvent le comprendre. Donc, il a commencé à enseigner. Mais ce qui montre que c'est quand même pas facile, quoi. Déjà, comme concept, hein, comme...
Merci pour votre réponse.
Mais le Bouddha aussi disait qu'on ne peut pas accepter cette définition-là sans vraiment aller voir et réfléchir et encore. Mais il disait, il faudrait que tous ceux qui croient en l'existence d'une âme réfléchissent aussi à ce qu'est cette âme. Et pas seulement croire ce qu'on leur dit que cette âme est. Dans les deux cas, il faut absolument analyser et que chacun eh bien, en ait une compréhension qui passe par l'analyse, par la réflexion. Et pas par une croyance. On n'a pas à admettre la croyance en l'existence de l'âme, mais on n'a pas à admettre non plus comme ça la croyance en la non-existence de l'âme. Le psaume, vous n'avez pas de questions sur...
Non,
alors
non, je n'ai pas de questions. J'avais une question, mais vous avez déjà répondu dans l'enseignement, donc c'était plus rapide.
J'ai encore un petit peu de mal avec clarté. L'esprit, clarté, connaissance et vacuité. Connaissance, vacuité, ça y est, mais clarté, j'ai encore un peu de mal avec...
La clarté, c'est la manifestation de l'esprit. C'est ce qui se manifeste. Quand vous avez une pensée, le fait d'avoir une pensée, c'est la clarté de l'esprit.
C'est le mouvement, c'est le...
Oui, la dynamique, on pourrait dire, le mouvement. Et c'est la connaissance qui va, par exemple, définir le type de pensée, ou que ce phénomène est une pensée, etc.
Vous aviez parlé à un moment donné de la dynamique de l'esprit, enfin les pensées étaient la dynamique de l'esprit.
Ouais.
Donc on peut simuler un peu clarté.
Ouais.
Clarté, ça me paraissait. Les lumières et tout, ça faisait un peu.
Il y a aussi cette notion-là dans clarté, parce qu'on parle de la luminosité aussi de l'esprit. Kalon Rinpoche prenait l'exemple, quand vous entrez dans une pièce et qu'elle est dans le noir, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a. Et si vous mettez de la lumière, à ce moment-là, vous voyez. Donc, en fait, la clarté de l'esprit, c'est cet aspect qui se manifeste, hein, il y a le phénomène qui apparaît, mais vous voyez le phénomène. Vous le voyez quand même. Et ce qui va déterminer le phénomène, c'est la connaissance. Ce qui va nommer, par exemple, le phénomène. C'est bon, on va boire une tisane. Alors, vous savez que Karmapa vient à Paris, vous avez tous reçu le mail. Karmapa vient à Paris le premier week-end de juin. Donc, c'est le week-end de la fête du Bouddha, la fête du Bouddha à Strasbourg. Donc, pour la première fois en 11 ans, on n'ira pas à la fête du Bouddha à Strasbourg cette année, quoi. Parce qu'on sera à Paris. Il vient à Genève, fin mai, et à Paris, début juin. Cette année, c'est une grosse année. Hein. Il y a Rinpoche après, fin avril, il y a le Dalai Lama en septembre. Si avec ça, on ne réalise pas l'éveil à la fin de l'année, il y a un problème. Par cette vertu, du sage promptement réalisé dans le mandra, et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Thank you.